C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Bon, ça brasse pas mal du côté de McGill. D'abord, il y a une requête en injonction qui sera débattue au cours de l'après-midi. On ne sait pas exactement qui fait la demande. Il paraît que ce sont des manifestants, ou en tout cas des étudiants. Ça reste à voir. Les étudiants qui font, qui ont établi le campement n'ont pas l'intention de partir. Et puis, on a appris il y a quelques minutes qu'il y a une demande officielle qui a été faite au service de police de la ville de Montréal pour, justement, tasser les barricades, tasser les étudiants, puis ramener l'ordre autour du campus. Alors, quand on regarde tout ça, là, l'injonction, le démantèlement, est-ce que c'est trop tôt? Est-ce qu'on doit les laisser protester encore longtemps devant l'Université McGill? Luc?
Mais moi, je dirais, ne serait-ce que pour une stratégie policière, je dirais oui. Parce que, par exemple, à Occupy Montréal, on se rappelle, il y avait quelques centaines de personnes qui occupaient le Square Victoria. Après, ça avait réduit. À la fin, il restait comme 80 personnes. 70 étaient totalement écœurés, avaient accepté de s'en aller. Il en restait 16 à arrêter. Les gars qui sont là et les filles qui sont là, ils se laisseront pas arrêter, là. Fait que ça va être des arrestations, du brasse camarade, de ceci, de cela. J'aurais pensé qu'il valait mieux faire traîner l'affaire pour des raisons policières. Maintenant, l'université a pris sa décision. Dans le courant de toutes les universités américaines qui reçoivent des fonds considérables de la communauté juive, là, 1,8 milliard de dollars, le fonds de l'Université de McGill, là, pas comparable avec l'UQAM, on pourrait dire. Et la communauté juive montréalaise, une communauté riche depuis des années, des décennies, généreuse envers l'université. Il y a des pavillons entiers qui ont été donnés, payés par de riches mécènes de confession juive. Il y a une pression aussi qui se fait. On sait, le lobby juif fonctionne comme ça. Là. Un gars comme Ars Fowler, par exemple, mettons que c'est pas dans sa... Ou Lévy, le maire de Hampstead. Et c'est des gens qui interviennent beaucoup, hein, qui téléphonent, qui appellent, qui écrivent, qui prennent la parole publiquement ou qui écrivent sur Facebook. C'est une communauté très, très, très active, vibrante. Alors, la pression doit être énorme pour l'Université McGill de faire cette demande-là. Moi, je pense que c'est une mauvaise stratégie.
Ouais. Une réaction de temps. Tout d'abord, l'Université McGill est tout à fait légitimée de demander un démantèlement du campement. Je comprends ta réaction, Luc. C'est sûr que elle est dans une position difficile parce que comment tu réussis à préserver le droit à la liberté d'expression et le maintien du bon ordre sur le plan public. Et ce qu'elle s'apprête à faire, cependant, c'est pas une usité, là. Tous les campus à peu près dans le monde qui vivent cette situation, ben sont passés à l'action. Puis il y en a quand même une bonne liste, là. Columbia, Yale, Harvard, Texas, Los Angeles, Sydney, la Sorbonne, Sciences Po, McGill, Ottawa. Du côté d'Ottawa, on a fait un sit-in qui a duré à peu près 48 heures. Vancouver, il y a même à Rome l'université La Sapienza également. Du côté de la France, ça barde encore plus. On veut même, du côté de Sciences Po, couper les vivres à l'université. Alors, ça brasse pas seulement à McGill, ça brasse partout. Je comprends qu'on est sur les étudiants sont sur le campus universitaire, mais en même temps, ce que probablement craint la haute direction de McGill, c'est que la situation dégénère. Et là, parce qu'en deux jours, le nombre de tentes a augmenté de manière quand même assez importante. Alors, est-ce que la stratégie de l'usure, c'est la bonne stratégie? Peut-être, mais en même temps, je comprends ce que l'université veut faire. Ma réaction de temps, c'est aussi, mais c'est pour les jeunes, parce que j'ai quand même une certaine admiration pour tous ces jeunes qui osent dire haut et fort ce qu'ils pensent à propos du conflit qui oppose Israël au Hamas. C'est comme s'ils étaient devenus la conscience du monde dans un conflit qui ne finit plus de finir et qui nous indigne, qui indigne l'ensemble de la planète, là. Ils réussissent à mettre des mots sur une indignation qui, mon Dieu, qui ne cesse de nous envahir, parce que chaque fois qu'on voit les images, on n'en revient pas, puis on se dit à quel moment ça va se terminer, on n'en peut plus de ce conflit. Et bien, les étudiants osent dire haut et fort ce que beaucoup de citoyens pensent tout bas.
Absolument. Puis, tu sais, hier, le New York Times se posait la question de savoir si la Cour internationale de justice allait émettre un mandat d'arrestation contre Netanyahou, contre le chef de l'état-major, puis ministre de la Défense. Là, on est rendu au bout du bout. Et les États-Unis ont cru bon prendre la parole pour dire qu'ils seraient contre un mandat d'arrestation. Mais automatiquement, tous les membres de la Cour internationale de justice, si un mandat d'arrestation est émis, doivent procéder à l'arrestation du premier ministre d'Israël s'il se déplace dans leur pays. Ça veut dire toute l'Europe, entre autres. Donc, la pression du monde entier, toutes les organisations civiles du monde entier là, se sont prononcées. Là. La Cour internationale de justice, l'ONU, le Conseil de sécurité, qui a eu un vote avec une abstention des États-Unis, mais pas de veto des États-Unis, sur une demande de trêve permanente. Amnesty International, Médecins du Monde, Médecins sans frontières, et la description qu'ils font de ce qui se passe à Gaza est extraordinairement intense. Par exemple, Amnesty International dit que c'est un événement unique au 21e siècle, ce qui veut dire que c'est pire, selon eux, que ce que la Chine a fait subir aux Ouïghours ou ce que la Birmanie a fait subir aux Rohingyas. Et dans une situation comme celle-là, dans toutes ces situations-là, où il y a eu des minorités ou des peuples qui ont été écrasés par une armée, il y a eu une réaction internationale forte et parfois des invasions. Mais les États-Unis, faut le remarquer, là, continuent d'agir pour les intérêts des États-Unis avec une remarquable constance. Ils ont envahi le Koweït, ils ont envahi l'Irak, ils ont envahi l'Afghanistan, puis ils ont donné de l'aide à l'Ukraine parce que c'était des intérêts stratégiques américains. Mais Afrique du Sud, Ouïghours, Rohingyas, Gaza,
Quand tu parles de constance dans la position américaine, Luc, rappelle-toi au début, la position de l'administration Biden était très pro-Israël. À un moment donné, voyant la destruction à Gaza, voyant la communauté internationale se soulever, là, ils ont appelé un cessez-le-feu. Tu vois,
D'un côté de la bouche.
Oui, je sais, mais il y a quand même eu une espèce... La position américaine a vacillé, au fil des... Puis les étudiants passants peuvent manifester autrement qu'en érigeant des tentes sur les terrains d'Université McGill. Par exemple, il y a du côté d'Ottawa, on a fait un sit-in, mais pourquoi pas manifester devant le consul d'Israël à Montréal, par exemple? Pourquoi pas aller manifester devant l'ambassade d'Israël à Ottawa? Il y a d'autres façons d'exprimer son indignation que celle d'établir un campement.
Parce que c'est une vague, j'ai l'impression.
Oui,
c'est-à-dire une vague qui part avec Columbia, puis là, ça déferle à travers les États-Unis. Puis je regardais ce matin les images des dernières heures à Columbia. Ils ont procédé à des arrestations, ils ont essayé de démanteler, mais là, ils sont entrés à l'intérieur d'un des immeubles de l'université, puis ils veulent pas sortir de là. Puis il y a eu d'autres arrestations ailleurs. Puis ça rappelle, veut pas, un peu le mouvement anti-guerre des années, fin des années 60. Tu sais, mai 68 à Paris,
Un début d'eux.
Tu sais, ça se prolonge, là, mais c'est toujours sur les campus universitaires que tu retrouves le noyau de la contestation puis de la révolte comme ça.
Mais rappelez-vous les contestations dans les universités américaines face à la guerre du Vietnam.
C'est ça.
Aussi. Il y a eu mai 68, tout à fait.
Mais il faut dire que les États réagissent quand même. Le Canada, on doit être assez fiers. Le Canada fait partie des pays qui ont interrompu la vente d'armes. Les contrats en cours sont honorés. Il n'y a plus de nouveaux contrats d'armes de vente en Israël, comme d'ailleurs les Pays-Bas, le Japon, l'Espagne, la Belgique. Donc, il y a beaucoup de pays qui commencent à dire « Wow, là, ça fera ». Et donc, effectivement, ça pourrait être un mouvement qui prend de l'ampleur. Mais moi, je persiste à dire que malgré leur déclaration favorable des dernières semaines de Biden, d'un côté de la bouche, il reste qu'il y a un support inébranlable, tu sais, avec le vote du budget de 25 milliards pour Israël. Alors, je me serais attendu à une réaction du monde qui aurait ressemblé à celle de la Bosnie-Herzégovine. C'est pas ce qui se produit.
On s'arrête là-dessus. Retour. La nouvelle PDG de Santé Québec a été nommée, Geneviève Biron. Quel sera le plus grand défi?
La commission Normando-Ferrandaise.
Alors, quel sera le plus grand défi de la première présidente de Santé Québec qui a été nommée hier, Geneviève Biron, Nathalie?
À court terme, le plus gros défi, c'est celui de la mobilisation. Santé Québec va devenir le plus gros employeur du Québec avec 330 000 employés. Le défi de la mobilisation est d'autant plus grand que les employés du réseau, vous le savez, ont vécu plusieurs réformes avant celle qui est imposée aujourd'hui. Il y a énormément de sceptiques dans le réseau et ça se comprend parce que les réformes promises dans le passé n'ont pas toujours donné les résultats escomptés. J'ajouterais à ce défi de mobilisation celui de la vision. Le gouvernement veut réformer le réseau de la santé, mais comment? La nouvelle PDG dit, on veut un réseau plus performant, mieux organisé, le dit à ton micro, l'accès, c'est important. Oui, tout ça, c'est bien, mais on a entendu ça avant aujourd'hui. À ces deux défis, il y a celui aussi des opérations, comment on va mettre en branle ce nouveau fonctionnement, là, la relation, par exemple, l'interaction de l'agence avec les CIS et les CIUS. Il y a également un défi lié à l'innovation. Le ministre dit qu'il faudra sortir des sentiers battus, oser faire les choses différemment, mais ça demeure comme un slogan. slogan pour l'instant. Alors, ça va prendre des résultats concrets et positifs. Puis, il y a aussi le défi lié à la communication. Il faudra en toute transparence communiquer les avancées, les résultats, les difficultés. Il y a une élection dans 2 ans. Alors, ça va prendre, il y aura une pression additionnelle qui va s'exercer sur cette nouvelle agence. Si j'avais à résumer, là, le défi qui est devant la nouvelle PDG et son adjoint, ben, c'est un mandat qui donne vertige.
Ah oui. Mais, puis moi, je pense qu'ils vont vivre dans un stress permanent. Là. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de période de grâce. Là. Ils s'en vont dans une job impossible. Moi, je vais demander un bureau avec des fenêtres qui rouvrent, une douche, un lit. Oui, oui. Non, non. Là,
un frigo.
Autres, là. Ah oui, frigo. Ouais. Non, les autres, là, c'est 4 ans de gros stress. Dites au revoir à la famille. Parce que il manque 3000 lits minimum. Hein. Il manque un problème de capacité. Ça, c'est un éveil qui m'a été fait par Gaétan Barrette. Il y a des gens qui ne l'aiment pas, mais ils connaissent le système de santé en Saint-Simonac. Et il manque 3000 lits. Et il manque 2500 nouvelles places par année dans les CHSLD, puis on est à peu près à 10 % de capacité dans les soins à domicile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas être en déficit de capacité pendant toutes tes années où tu vas travailler à redresser le système. Donc, sous la pression du public, sous la pression du ministre, avec des grèves de zèle, avec des déclarations incroyables de patients qui sont restés 72 heures aux urgences, d'autres qui sont décédés à la maison. Ça va être ton quotidien, OK? Pendant que tu essayes de changer des choses. Et tu n'as pas la... c'est pas comme Hydro-Québec, là. Ils ne maîtrisent pas le plan stratégique. C'est pas eux qui décident d'investir. Bon, Hydro-Québec, tu me diras qu'ils reçoivent des avis assez forts du ministre de l'Industrie puis de l'Énergie, mais quand même, tu sais, ils contrôlent leur propre plan stratégique. Dans leur cas, ils n'investissent pas, ils opèrent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils prennent des décisions, et il y en a beaucoup des décisions, pour fluidiser, pour donner l'accès. Et ça va être quoi? Bon, dans la loi 15, il y a des mesures qui leur donnent la capacité de gérer la rémunération en fonction de la performance. Est-ce qu'ils vont les mettre en œuvre? Ils peuvent rééquilibrer les ressources entre le temps supplémentaire puis l'embauche, ou entre les soins à domicile puis l'hôpital, ou entre les CHSLD puis les hôpitaux. Ils peuvent faire des ajustements dans des champs de compétences en disant, ben, les infirmières spécialisés, on va leur donner plus, puis les médecins, on va leur donner moins. Ils peuvent étudier les horaires, les cliniques de DPS, les nouvelles initiatives de soins à domicile, les nouvelles initiatives de santé mentale. Ils peuvent faire beaucoup de choses, mais aucune des choses qu'ils peuvent faire ne peuvent redresser le système.
Ben, il y a des écueils. Moi, j'en vois. Après tout ce que tu as dit, là. Le premier écueil, selon moi, c'est qu'il faudra éviter le mur à mur. Chaque région, chaque CIS et CIUS a ses particularités. Il faudra les respecter. Le deuxième écueil, c'est qu'il faudra éviter de créer une nouvelle bureaucratie. Si on s'enfarge dans les autorisations de tout ça pour permettre aux employés, par exemple, sur le terrain de faire leur travail, ben, on va avoir changé 4 francs sous pour une pièce. Et je le dis, j'insiste beaucoup là-dessus, la nouvelle bureaucratie, parce que Santé Québec, au départ, le ministre nous a dit, ça sera une structure assez légère, qui va agir de pont entre le ministère et le terrain. Ben, vous savez comme moi que dans ce merveilleux monde des organisations, on a tendance à créer des étages, des couches. Puis là, j'espère qu'on ne se retrouve pas qu'une agence qui va effectivement créer une nouvelle bureaucratie. L'autre chose, quelle place pour les patients dans cette structure? On dit toujours, le patient est au cœur de nos priorités. On est tout tanné d'entendre ça, là. Le patient est au cœur de nos priorités. Bon, bien, concrètement, là, avec la nouvelle agence, ça veut dire quoi? Puis le temps également dont la PDG et son équipe vont disposer. Je disais tantôt, j'insiste là-dessus, il y a une élection dans 2 ans. Pour moi, c'est fondamental. Le ministre va vouloir des résultats très, très concrets, là. Alors, puis j'écoutais ce matin l'entrevue que tu as accordée, que t'as accordée, Mme Biron. Elle dit, bon, l'accès, c'est important. Elle dit, j'en viens pas que les gens entendent autant l'accès à un médecin de famille, spécialiste, le temps d'attente pour les opérations. Mais qu'a-t-elle à dire de plus par rapport au défi qui est devant elle? Je suis assez étonnée, puis je le dis avec tout le respect là qu'on doit à Mme Biron, parce que quand même, il faut le faire, là, décider d'embrasser un mandat comme celui-là. Je me serais attendue, est-ce qu'elle a une opinion un petit peu plus...
Pointue,
effectivement, sur les défis qui l'attendent. L'excuse, parce que, tu sais, elle dit, ben écoutez, je viens d'arriver, je vais mettre les équipes en place. Oui, mais il me semble que qu'elle avait réfléchi un peu plus.
Moi, j'ai remarqué dans les réactions cette espèce de cri là, de dire, elle vient du privé, qu'est-ce qui va nous arriver? Tu sais, je veux dire, attends un peu, là, je veux dire, si on peut s'inspirer de pratiques de service à la clientèle qui font en sorte que c'est plus agréable. Puis je regarde ce que Biron a fait, par exemple, durant la COVID, les tests aux aéroports. C'est eux autres, là. Puis t'avais le résultat assez vite. Je dis pas que c'est parfait, là, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, l'espèce de réaction de base. Mais moi, c'est pas là où j'accroche. C'est l'homme du mammouth.
Ah. À Verdel? Toi, tu penses que c'est l'inspecteur à Verdel?
Ben, je pense que la bureaucratie a deux façons de faire. La première, se protéger. Et deux, perpétuer les pratiques qui font qu'ils peuvent se protéger et continuer à grandir dans l'organigramme. Je suis troublé de voir quelqu'un du mammouth. Je comprends que c'est des opérations, puis ça prend quelqu'un qui connaît ça. Mais je peux te dire, là, puis il m'aimera pas le monsieur, mais tous les commentaires que j'ai reçus de Sacré-Cœur et du CHUM, je peux te dire qu'il y a personne qui est en mode tristesse, là, parce qu'il s'en va faire autre chose. Tu sais, c'est moi, c'est ce bout-là, la capacité extraordinaire du mammouth de faire semblant. C'est chicken fried rice, yeah, chicken fried rice. Chicken pineapple. Capable de faire semblant et en faisant quand même leur plan de match qui est de pas trop bouger d'affaires.
Ben écoute, moi je suis pas contre. Moi je pense qu'il fallait nommer quelqu'un à côté de Mme Biron.
Parce ça, c'est
que,
sûr.
Comme t'as raison, là, c'est combien d'actes médicaux? 1700 facturables? 1700? Tu sais, quelqu'un qui connaît rien dans le système,
ben non, c'est
il
sûr.
Peut pas. Il s'apprenait un Aberdel quelque part. Maintenant, est-ce qu'Aberdel va dire non, c'est pas possible, ça c'est pas possible. C'est très possible que ce que tu dis se s'avère. Moi, écoute, un petit conseil.
Actuellement, c'est ça, là. Ouais. Actuellement, t'as ce que le ministre dit puis ce que la machine dit.
Ouais.
C'est pas toujours pareil.
Écoute, moi, je dirais à nos deux courageux là, il faut baisser la pression sur le système, OK? Pour baisser la pression sur le système, vous n'avez pas la capacité d'augmenter le nombre de lits. Là, il y a des mini hôpitaux pour personnes âgées qui s'en viennent. Il y a un dossier virtuel unique qui s'en vient. Il y a la télémédecine. Il y a des négociations sur le gap puis sur la performance des médecins. C'est avec ça qu'ils vont devoir travailler. C'est ça les outils. Ça devrait pas prendre 6 mois pour qu'on comprenne comment chacun des outils-là va contribuer. Là, on veut des réponses. Les soins à domicile aussi, je l'ai dit. Puis les soins à domicile en santé mentale, même en soins à domicile en post-opératoire. Là, on veut des réponses en 1 mois. J'ai juste écouté le 98.5, là. La commission, notamment, on en parle quasiment à tous les 5 jours.
Oui.
Si des journalistes et des chroniqueurs sont capables de comprendre à peu près une partie des dossiers, eux autres, ils devraient les comprendre en 1 mois. Puis on va avoir un plan de match au bout de 60 jours max.
C'est dans l'univers. Alors, l'échéancier, c'est fin juin.
Ouais.
OK, fin juin. C'est parfait. C'est Luc a décidé que c'était fin juin. Merci à vous les deux.
C'est 23.